en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, chers collègues, merci beaucoup pour votre aimable présentation. Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Madame et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour l'honneur de l'invitation à parler chez votre ancienne et illustre institution. Je dois dire que en choisissant le sujet, vous avez été très prévoyant. Le sujet a été choisi en février de l'année dernière. Alors, la situation est devenue très d'actualité. Alors, la coupole évoque le souvenir d'un grand Italien qui a bien servi la France, le cardinal Giulio Mazzarino. Je vois que ici vous avez le prédécesseur, le cardinal Richelieu. Une des Mazarinettes, les nièces du cardinal Olympia Mancini, fut la mère du prince Eugène de Savoie, qui offrit son épée au roi Louis XIV. Mais le roi Soleil refusa, et le noble chevalier deviendra un des plus grands commandants militaires de l'histoire, mais au service de l'empereur et contre la France. La première partie de mon exposition est réservée à un aperçu historique sur les relations franco-italiennes depuis l'unification italienne. La France est la plus ancienne État-nation de l'Europe, comme remarqué le premier ministre Édouard Balladur à un sommet de l'Union européenne dans les années 90 du dernier siècle. L'Italie unie fut formée beaucoup plus tard, en 1861. Pendant toute l'époque moderne, l'Italie fut l'enjeu de lutte entre la monarchie française et les Habsbourg, unis, espagnols ou autrichiens. Sous Napoléon Ier, l'Italie était dominée par la France. Le congrès de Vienne de 1815 établissait l'hégémonie autrichienne. L'unité italienne fut réalisée aussi merci à l'alliance militaire de la France avec le Piémont en 1859. La gratitude de ceci fut un peu obscurée par l'armistice que Napoléon III conclut avec l'Autriche, au moment que seulement la Lombardie était conquise. Le résultat final, un royaume comprenant toute la péninsule, n'était entièrement agréable pour Napoléon III, qui, selon une des axiomes de la diplomatie de Paris sous tous les régimes, ne voulait pas de grandes nations aux frontières de la France. En effet, selon le plan original de l'empereur, l'Italie devait être divisée en quatre États. Étant historien de la diplomatie, j'ai remarqué que la reconnaissance diplomatique française du Royaume d'Italie ne fut pas immédiate, comme celle de l'Angleterre. Le Royaume fut proclamé le 17 mars 1861. La reconnaissance française tarda jusqu'au 15 juin. La lettre du ministre des Affaires étrangères, Touvenel, montrait tout l'embarras de la France qui réaffirmait la nécessité de maintenir ses troupes à Rome pour garantir l'indépendance du souverain pontife. En effet, la question romane troubla les relations entre l'Italie et la France jusqu'à 1870. La Convention de septembre de 1864 fut un compromis ambigu et temporaire, bien décrit par les mots de Napoléon III au négociateur italien le marquis Pepoli, qui était petit-fils du roi Joachim Murat. Disait Napoléon III, « Il était nécessaire de trouver une solution permettant à moi de faire croire que vous renonciez à Rome et permettant à vous de faire croire que vous n'avez pas renoncé. » À la suite de la Convention, les troupes françaises quittèrent Rome, mais y retournaient en 1867 pour repousser Garibaldi, auquel le gouvernement italien avait permis d'envahir l'État pontifical. le ministre d'État Eugène Rouet s'écria « L'Italie ne s'emparera jamais de Rome. Jamais, non, jamais. » La question romaine fut d'obstacle à une alliance entre l'Autriche-Hongrie, la France et l'Italie en fonction anti-prussienne. En 1870, seulement le roi Victor Emmanuel II, le roi d'Italie, envisageait d'intervenir à côté de la France. Mais le gouvernement restait neutre et saisit l'occasion de la défaite française pour occuper Rome. L'Italie fut considérée ingrate et en 1881, Ernest Renan écrivait, je cite, « L'Italie trahira toujours, jusqu'au moment où, délivrée de ses politiciens et de ses journalistes, elle se résignera à être un État de second ordre, très heureux à sa manière. » En effet, cette année, la proclamation du protectorat français sur la Tunisie ouvrit une période de presque 20 ans de fortes tensions entre Paris et Rome, qui signait la triple alliance avec Berlin et Vienne. Une période obscurcie par la rivalité coloniale, la guerre douanière, les massacres à Aigues-Mortes des travailleurs immigrants italiens en 1893. La défaite italienne à Adwa et la chute de Francesco Crispi apaisèrent les relations franco-italiennes. Les accords Visconti-Venosta-Barrère de 1900 reconnaissaient les intérêts de Paris sur le Maroc et de Rome sur la Libye. Plus encore, les accords secrets entre Prinetti et Barrère, il s'agit du ministre des Affaires étrangères italien et de l'ambassadeur français à Rome, de 1902, pratiquement vider de significat la triple alliance et garantir la neutralité réciproque en cas d'agression d'un des deux pays. À la conférence d'Algeciras sur le Maroc, l'Italie soutenait la France contre l'Allemagne. Pourtant, quand l'Italie entreprit la conquête de la Libye, l'attitude de la France ne fut pas très amicale. La marine royale italienne saisit trois navires français soupçonnés de transporter des armements et des militaires au soutien des Libyens. Depuis le 24 mai 1915, la France et l'Italie étaient alliées dans la Grande Guerre, mais pas vraiment amies. Le royaume d'Italie n'était pas hostile à l'Empire allemand, auquel déclara guerre seulement en août 1916. En 1918, à peu près 120 000 militaires italiens étaient déplacés en France, souffrant plus de 5 000 tombés, et après la défaite de Caporetto, 6 divisions françaises étaient sur le front italien, avec presque 500 tombés. Le président du Conseil Georges Clemenceau, le président de la République Raymond Poincaré, les généraux Ferdinand Foch et Philippe Pétain n'avaient aucune estime du commandement suprême italien, mais leur opinion à la fin fut plus positive. En tout cas, la plupart de l'opinion publique et des historiens français et anglo-saxons, il faut le dire, a toujours sous-estimé l'importance de l'effort militaire italien et de la victoire de Vittorio Veneto. À la conférence de paix, les alliés européens de l'Italie, France et Royaume-Uni étaient prêts à respecter les clauses du traité de Londres, mais pas à aider Rome à obtenir, contre la farouche opposition du président américain Wilson, aussi la ville de Fiume, demandée à la suite de la disparition de l'Empire austro-hongrois. L'Italie obtiendra Fiume en 1924 avec les traités avec Belgrade, le royaume des Serbes, Slovènes et Croates. Ceci était un succès de Benito Mussolini. Selon la formule du fameux historien Renzo De Felice, les duces cherchaient à, je cite, « à faire une politique anti-française pour parvenir à un accord avec la France ». Fin de citation. Contre le système des alliances françaises, la Petite Entente, Mussolini poursuivit une politique révisionniste, appuyée sur l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie. Une autre raison de désaccord était la question de compensation coloniale suivant la partition des colonies allemandes en Afrique. Enfin, un élément de friction entre les deux pays était l'accueil offert par la France aux réfugiés antifascistes. L'arrivée au pouvoir d'Hitler donnait la possibilité à l'Italie de jouer le rôle traditionnel de guille d'équilibre, ago della bilancia. Maintenant, sa formule était rebaptisée la tactique du poids déterminant. On ne peut pas parcourir ici l'histoire des années 30. Il faut seulement rappeler que les accords Mussolini-Laval du janvier 1935 et les colloques entre le maréchal Badoglio et le général Gamelin semblaient indiquer ce chemin, un chemin d'accord entre l'Italie et la France. Mais le résultat fut tout à fait différent, le coup de poignard dans le dos du 10 juin 1940. La campagne d'Italie après septembre 1943, quand l'Italie avait changé de côté dans la guerre, voyait les royaumes d'Italie, dites du Sud, parce qu'ils contrôlaient seulement le sud de la partie centrale de l'Italie, combattre à côté des Français. Mais les massacres perpétrés par les goumiers marocains laissaient un souvenir tragique. Dans le Lazio du Sud, plus de 3 500 femmes et hommes de tout âge furent violés ou tués. Le général de Gaulle cherchait d'obtenir une zone d'occupation en Piémont et d'avancer des objectifs sur la vallée d'Aoste, mais il fut stoppé par les États-Unis. À la conférence de paix, la France devait s'occuper de ses problèmes et ne voulait s'opposer à l'Union soviétique. Alors, pour la frontière avec la Yougoslavie, Paris proposait entre les pays occidentaux la ligne moins favorable à l'Italie. La ligne plus favorable était celle des États-Unis et puis il y avait celle de l'Angleterre. La troisième était celle de la France. Suivant son intérêt, la France fut favorable à l'entrée de l'Italie dans l'Alliance Atlantique parce que la France voulait rééquilibrer vers les Méditerranéens l'axe stratégique de l'Alliance. De Gasperi et Schuman furent avec Adenauer les pères de l'Europe. Des conversations entre l'Allemagne, la France et l'Italie furent entreprises en 1957-58 pour développer une capacité nucléaire. Mais le retour au pouvoir du général de Gaulle mettait fin à cela. De Gaulle n'était pas aimé en Italie. Il était considéré autoritaire. On n'approuvait pas sa politique extérieure anti-américaine et contre la mission de l'Angleterre à la communauté économique européenne et on n'approuvait pas son opposition aux méthodes communautaires. Pourtant, à l'occasion du centenaire de la guerre de 1859, de Gaulle faisait une visite en Italie qui avait un grand succès. En cette occasion, il parlait des deux nations sœurs, quand, après la guerre, il avait préféré les mots « cuisine ». S'il faut croire au témoignage du fameux journaliste italien Indro Montanelli, à son observation que l'Italie était un pays pauvre, le général aurait répondu « L'Italie n'est pas un pays pauvre, mais un pauvre pays. » Mais Montanelli, bon, les journalistes peut-être quelquefois inventent des formules brillantes. La guerre d'indépendance algérienne troubla les relations franco-italiennes parce que Rome, dans le contexte de sa politique arabe, poussé par Enrico Mattei, le puissant président de l'organisme public pour le pétrole, les hydrocarbures, démontrait ouvertement sa sympathie pour le Front de Libération Nationale. Dans toute l'après-guerre, les soucis de l'Italie étaient d'être admise au club des puissances européennes majeures. Mais, selon la remarque d'un historien, pour la France et la Grande-Bretagne, l'Italie devait être loin d'être considérée comme leur égale. Elle était seulement un instrument pour servir leur ambition, pouvant être cooptée ou rejetée. Alors la conclusion fut tirée par l'illustre diplomate italien Roberto Ducci, je cite, les maîtres plus loin et plus riches et les meilleurs. Naturellement, il était une référence aux États-Unis. En effet, l'Italie cherchait de se maintenir un équilibre entre les États-Unis et l'Europe, mais elle penchait plutôt vers Washington. Quand le président Valéry Giscard d'Estaing préparait le sommet de Rambouillet en 1975, il n'envisageait pas la participation de l'Italie. L'intervention, surtout des États-Unis, ouvrit la porte à l'Italie. En 1976, le groupe devenait le G7, l'Allemagne de l'Ouest, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le terrorisme rouge provoqua aussi le ressentiment de l'Italie à cause de ce qu'on appelait la doctrine Mitterrand, qui offrait refuge en France à beaucoup de terroristes. Le problème est encore ouvert aujourd'hui. Presque 30 fugitifs condamnés par les tribunaux italiens sont toujours libres sur le territoire français. En concluant cette première partie du caractère plus historique, je vais faire quelques comments généraux. Comme écrivent les auteurs du volume « La France et l'Italie, histoire des deux nations sœurs », je dois l'indication au professeur Weiss, au cœur des relations franco-italiennes à partir de l'unité italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a les nouveaux rapports géopolitiques qui s'établissent entre une grande puissance reconnue comme telle, la France, et une nouvelle puissance, l'Italie, occupant un rang intermédiaire entre le club très fermé des grandes puissances et celui des puissances d'ordre secondaire. L'Italie, comme ont dit les historiens italiens, était la dernière des grandes puissances, la plus petite des grandes et la plus grande des petites. La France, depuis 1870, suivit une politique étrangère axée sur l'objectif de récupérer l'Alsace et la Lorraine et ne variait pas ses alliances pour l'obtenir. L'Italie cherchait de compléter l'unité nationale avec Trento et Trieste et la plupart de la classe politique avait aussi de grandes ambitions. C'était la maladie romaine, selon l'expression de Federico Chabot, c'est-à-dire le souvenir de la gloire d'un passé très loin et le désir de la renouveler. Au contraire de l'Allemagne qui fondait sa diplomatie sur la force, l'Italie essaya d'accroître sa force par la diplomatie. Au contraire de la France, ayant le seul but d'encercler l'Allemagne, depuis 1900, l'Italie faisait des tours de valse, selon l'image fameuse du chancelier allemand Bernard von Bülow. À côté de l'alliance avec les empires centraux, l'Italie avait des amitiés avec la Triple Entente. France et l'Italie vainquirent la grande guerre. Mais la France était épuisée et sa politique extérieure entrait en décadence et après tombait dans l'abîme, comme dit Durosel, qui a écrit deux volumes sur ce sujet. Le régime fasciste s'affichait une façade guerrière, mais la réalité des forces armées était très différente. Mussolini faisait mal ses calculs et à la fin choisit, bon gré mal gré, l'alliance brutale avec l'Allemagne hitlérienne. L'Italie passait très tôt de la guerre parallèle à la soumission à l'Allemagne. En 1943, l'Italie quitta l'alliance avec l'Allemagne, mais elle n'avait pas aucun général de Gaulle pour transformer la défaite en victoire. Dans le deuxième après-guerre, les déséquilibres entre Paris et Rome étaient encore plus forts qu'avant 1914. L'Italie était un pays vaincu, amputé de territoires significatifs, pendant que la France était formellement un des cinq grands du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais l'affaire de Suez démontra que la France aussi n'était plus la puissance de pour avant. Le général de Gaulle redonna à la France une grandeur, gardé par ses successeurs, quand l'Italie, surtout dans les années 70, tombait dans les désordres. L'instabilité et accroîtra les déficits de son budget, qui encore aujourd'hui est un grand problème. La France avait une entente très stricte avec l'Allemagne, quand l'Italie n'avait aucun axe similaire. Donc, le sens de supériorité de la France sur l'Italie s'est renforcé. Je vais maintenant à la deuxième partie, les années récentes et la situation actuelle. La personnalité et la politique étrangère et économique de Silvio Berlusconi, dominant pour 20 ans, ne suscitèrent pas de sympathie en France. C'est drôle parce que Berlusconi, personnellement, était très francophile. Il parlait beaucoup, parlait très bien le français. Il aimait chanter des chansons françaises. Mais il aimait la France, mais il n'était pas aimé en France. En 2003, Berlusconi appuyait le président George Bush pour attaquer l'Irak. Attaque à laquelle le président Jacques Chirac s'oppose. Le gouvernement Berlusconi soutenait plutôt faiblement l'identité chrétienne de l'Europe quand la France prônait un laïcisme strict. L'intervention en Libye fut le premier champ de bataille entre les deux pays. Le 19 mars 2011, la France ouvrit les hostilités contre les forces terrestres du dictateur Muammar Kadhafi, suivi très tôt par la Grande-Bretagne et les États-Unis. En Italie, on doutait que le président Sarkozy était animé principalement par un souci humanitaire. On pensait plutôt qu'en réalité la France, à détriment de l'Italie, voulait gagner en Libye l'influence perdue dans d'autres pays arabes, à commencer de la Tunisie, à cause des printemps arabes, initialement pas soutenu par Paris. Paris avait même offert sa expertise au gouvernement tunisien pour réprimer les émeutes. Les successifs gouvernements italiens, en particulier ceux de Berlusconi, avaient élaboré beaucoup pour forger une stricte entente avec la Libye, fournisseur de pétrole et barrage à l'immigration partant de l'Afrique noire. C'était une politique réaliste et pas idéaliste, à imitation de celle des pays occidentaux en situation similaire. Kadhafi était une canaille, mais était notre canaille, pour utiliser l'expression inventée dans les années 1930 par le président Roosevelt à propos du Guatemala. Rome n'avait la chance de fermer l'attaque, et essaya de les contrôler, trasformant l'opération en une intervention de l'OTAN, ce qui donnait à l'Italie la possibilité d'empêcher des attaques aériennes à ses plantes du pétrole en territoire libyen. Après l'assassinat de Kadhafi et la fin de la guerre civile, la Libye tomba dans le chaos, avec de graves répercussions sur les migrations illégales directes en Italie. La diatribe franco-italienne pour l'influence sur la Libye continue jusqu'à ce jour. L'Italie, soutenant plutôt le gouvernement reconnu par les Nations Unies de Mustafa al-Sarraj, la France préférant le général Khalifa Haftar. La situation économique ouvrit un deuxième important dossier. Le 24 2011, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy donnèrent une conférence de presse commune à l'issue du Conseil européen à Bruxelles, dédiée en grande partie à empêcher une crise italienne. Interrogé sur leur discussion avec Berlusconi, le couple franco-allemand esquissa un sourire ironique qui en disait long sur sa méfiance vis-à-vis du chef du gouvernement italien. Moins d'un mois après, le gouvernement Berlusconi fut remplacé par celui de Mario Monti, ancien commissaire européen, qui entrait dans la politique appelé par le président de la République, Giorgio Napolitano, post-communiste, désormais parfaitement inséré dans la globalisation. Le président Sarkozy avait annoncé son soutien à Monti même avant sa nomination. La droite italienne cria au complot du pouvoir fort, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en Italie et même dans des autres pays. c'est un peu indéfini, mais c'est très populaire. Les mesures financières très dures introduites par le gouvernement Monti pour respecter les paramètres de la zone euro nourrirent l'euroscepticisme d'une partie de l'opinion publique. Dans le passé, la plupart des Italiens voyaient l'Union européenne comme une ressource pour réformer leur système politique. Dorénavant, à tort ou à raison, l'Union européenne était vue par large secteur de l'opinion publique italienne comme une entité qui rendait l'Italie plus pauvre. Le couple franco-allemand a été la cible principale des critiques italiennes. Un commissaire français de l'Union européenne est particulièrement détesté en Italie. Monsieur Pierre Moscovici a été flagellé par le plus important et très pro-européen quotidien italien, le Corriere della Sera, comme, je cite, une sceptique sur l'Italie, qui considère ses cousins italiens des Français mal réussis. Fin de citation. On lui reproche d'avoir violé les paramètres économiques de l'Union européenne quand il était ministre des Finances à Paris et de les appliquer maintenant avec rigueur à l'Italie. La troisième question qui divise l'Italie et la France est celle de l'immigration massive et illégale. Les territoires de l'Italie, du sud, en particulier l'île de Lampedusa et la Sicile, est particulièrement vulnérable à l'immigration illégale provenant de l'Afrique par mer. En 2016, plus de 190 000 personnes ont débarqué en Italie. L'année suivante, presque 120 000. Même le gouvernement de gauche comprenait que la situation était insoutenable. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, l'ancien communiste Marco Minniti, inaugura une politique d'accord avec les autorités de la Libye et fait baisser considérablement les arrivées. Son successeur dans le gouvernement souverainiste, Matteo Salvini, a proclamé la fermeture totale des portes italiennes aux immigrants clandestins. Et le 10 juin 2018, le président Macron définit la décision dégueulasse et dénonça le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien. Ce qui apparaît en Italie une manifestation d'hypocrisie et d'arrogance, considérant que la France fermait sa frontière et la police française était intervenue au moins deux fois en territoire italien, violant la souveraineté, pour fouiller et contrôler des immigrants. Enfin, il y a la question économique bilatérale. France et Italie sont des importants partenaires. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays ont monté au record de plus de 76 milliards d'euros, avec un équilibre favorable à l'Italie, qui est la troisième importateur de la France, avec 33 milliards, et le troisième exportateur en France, avec plus de 41 milliards. Mais depuis la fin du siècle dernier, des grandes compagnies françaises ont fait une campagne d'achat des groupes italiens, particulièrement dans les domaines financiers, de la mode, vinicole et alimentaire. Les investissements français en Italie montent à plus d'une centaine de milliards d'euros, presque le double des investissements italiens en France. Presque 2000 entreprises italiennes avec plus de 150 000 ouvriers sont contrôlées par des propriétaires français. Seulement les États-Unis et l'Allemagne ont un peu plus d'investissements en Italie. Depuis 2016, une des plus grandes banques italiennes, la Banque nationale del lavoro, est sous le contrôle de BNP Paribas. Une autre, Unicredit, a comme administrateur délégué le Français Jean-Pierre Mustier. Un autre Français, Philippe Donnet, est l'administrateur délégué du Gruppo Generali, la plus grande compagnie d'assurance en Italie et la troisième en Europe. Alors, en Italie, je ne suis pas économiste, alors je ne suis pas très expert de ces choses-là, mais je réfère l'impression qu'on a en Italie. En Italie, on a l'impression que les gouvernements français sont prêts à s'opposer à des acquisitions italiennes. Et on donna l'exemple récent des chantiers de l'Atlantique. Contre l'accord signé le 2 février 2018 par l'italien Fincantieri pour l'acquisition de 50% du capital des chantiers, les gouvernements de Paris et Berlin ont déposé un appel à la Commission européenne, demandant de vérifier s'il y a une violation des règles sur la concurrence, ce qui avait déjà été exclu pendant les négociations. En Italie, on suspecte une représaille pour les positions politiques italiennes et en particulier pour les hésitations du gouvernement italien vers la ligne grande vitesse Turin-Lyon. De son part, Berlin a tout son intérêt à saboter l'opération, étant que l'Allemagne, Meyer Werft, est la première concurrente de Fincantieri dans le secteur des navires de croisière. Considérant que l'opération Fincantieri est susceptible de développement dans les domaines militaires, l'opposition française jette des doutes sur la volonté réelle de Paris de construire l'Europe de la défense. Il y a trois semaines, le gouvernement de Paris a bloqué la fusion entre Fiat Chrysler et Renault. Le président du patronat italien Confindustria a commenté, je cite, « Il faut être cohérent et exemplaire. Si on veut faire les européistes, on ne peut devenir nationaliste quand les entreprises italiennes arrivent dans un autre pays. » En plus de ces nombreux dossiers divisant Rome et Paris, il faut ajouter l'évolution, ou peut-être révolution, du cadre politique dans les deux pays. Dans l'Hexagone et aussi dans la péninsule, les partis traditionnels sont entrés en crise. En France, le Parti socialiste est réduit à petite chose et les gaullistes ont perdu aussi leur primauté sur la droite. Parallèlement, en Italie, le parti de droite modérée de Berlusconi est aussi réduit au minimum et la gauche touche le pourcentage plus bas de son histoire. Les partis traditionnels ont été remplacés au pouvoir par des forces différentes. En France, c'est le nouveau parti du président Macron qui gouverne, grâce au système électoral, mais avec moins de 30% de votes. Aux élections européennes, il a été surpassé par le mouvement de Madame Le Pen. Dans les mêmes élections en Italie, les partis souverainistes ont obtenu presque 60% des votes et le gouvernement est formé par deux partis souverainistes et populistes, la Ligue et les 5 étoiles. Premièrement, cette situation a déterminé l'abandon d'un projet d'un traité du Quirinale entre l'Italie et la France, un peu sur le modèle du traité franco-allemand de l'Élysée de 1963. Ce projet avait été avancé en septembre 2017 par le président Macron, mais le remplacement du gouvernement à guide centre-gauche avec le gouvernement souverainiste et populiste rendait le projet irréalisable. Dans les premiers partis de 2019, des affrontements sérieux entre les deux pays se sont vérifiés. Le président Macron apparaît comme le chef de file d'un européisme plus avancé. Le vice-président du Conseil italien et chef de la Ligue, Matteo Salvini, est un des principaux chefs souverainistes. Ce dernier déclara qu'il était proche aux Français, qui vivent en France avec un très mauvais gouvernement et un très mauvais président de la République. C'est une citation. Macron répondit que les critiques des dirigeants italiens n'avaient aucun intérêt et que, je cite encore, « le peuple italien est notre ami et mérite des dirigeants à la hauteur de son histoire ». Il condamna aussi la lèpre souverainiste. L'autre vice-président, ministre italien et chef des 5 étoiles, Luigi Di Maio, allait encore plus loin, accusant la France d'appauvrir l'Afrique et de pousser les migrants à rejoindre l'Europe par sa politique de colonisation. Il rencontra aussi une des porte-parole des Gilets jaunes. L'ambassadrice de l'Italie en France fut convoquée au ministre des Affaires étrangères et le 7 février 2019, l'ambassadeur de France en Italie fut rappelé pour consultation. La crise fut surmontée par des contacts avec le président Macron et le président de la République italienne Mattarella, invités à se rendre en visite en France le 1er et le 2 mai. Mais les problèmes restent, tout sur la table. Les deux pays ont difficulté à poursuivre leurs plans politiques divergents. Le président Macron a esquissé une ambitieuse politique de nouvel élan européen qui ne trouve pas un soutien suffisant entre les pays membres de l'Union européenne, à commencer par celle d'une Allemagne affaiblie. Les souverainistes italiens risquent de ne trouver des alliés pour promouvoir leur politique et d'être marginalisés par un accord entre les familles politiques traditionnelles, populaires, socialistes, libéraux ou verts. En conclusion, je vais abandonner les questions contingentes pour concentrer mon attention sur des facteurs de plus longue durée. Dans deux documents stratégiques, on trouve un signe de la différence de perspective et d'ambition des deux pays. Le livre blanc du 2013, Défense et sécurité nationale en France, réaffirme fortement le conseil d'intérêt national et proclame que la France est, je cite, une puissance européenne au rayonnement global. Dans le livre blanc italien pour la sécurité internationale et la défense de 2005, il y a des nuances différentes. On aperçoit la vulnérabilité de l'Italie qui est influencée très fortement par la situation globale et doit être réaliste sur ses possibilités d'action limitées. À l'Italie, on a appliqué la catégorie des puissances moyennes. Que devrait être une puissance moyenne? Un État qui a un rôle important dans son région géopolitique, capable d'influencer à propre avantage les événements et de s'opposer au développement contraire à ses intérêts. De diriger dans son région les politiques des organisations internationales auxquelles il appartient et de faire face même seul aux défis et menaces des dimensions moyennes. Je crois que l'Italie remplit ces conditions seulement partiellement. Mais aussi la France rencontre de croissantes difficultés à faire une grande politique. Par exemple, l'axe franco-allemand a perdu son vigueur et les interventions militaires de Paris dans l'Afrique francophone, comme l'opération Barkhane, ont été rendues possibles par les soutiens américains et britanniques. Je veux dire quelques mots sur les aspects culturels. Au niveau de la culture de masse, en Italie, le français a été remplacé par un anglais abattardi par l'américain. Et l'Espagne remplace l'Italie dans le tropisme méditerranéen des Français. Mais certainement, au niveau plus élevé, les relations culturelles entre les deux pays restent très fortes. Je veux citer deux cas significatifs auxquels j'ai participé directement. Un diplomate et essayiste italien, Maurizio Serra, qui est membre correspondant de votre Académie, en 2011 a obtenu le prix Goncourt pour la biographie pour son volume Malaparte, Vie et légende. L'édition italienne a gagné le prix Acquistoria en 2013. J'étais membre de la jury. Le même prix, le prix Acquistoria, a été décerné en 2017 à l'historien français Hubert Hérier pour son livre Italia 1866, storia di una guerra perduta e vinta. Alors, un italien a écrit un livre en français, a gagné un prix en France en Italie, et un français a écrit un livre en italien et a gagné un prix en Italie. Mais il faut reconnaître que la sincère attraction culturelle entre les deux pays n'est pas toujours suffisante à briser certains stéréotypes. Dans l'imaginaire des Italiens, la France est fave de la civilisation, mais aussi une nation arrogante. Version de la civilisation, mais nation encore en état de minorité, est la perception que les Français se font de l'Italie. Les gouvernements italiens ont été toujours sceptiques sur l'européisme français. pensant que Paris identifie trop étroitement les intérêts de l'Union européenne avec ceux de la France. Je voudrais conclure avec une bonne nouvelle. En 1972, à l'initiative de deux renommés historiens, le français Jean-Baptiste Durosen et l'italien Enrico Serra, le père de l'autre Serra que j'ai cité, fut constitué un comité franco-italien des études historiques, qui organisa beaucoup de colloques et publia plusieurs livres, mais qui entra en sommeil depuis le milieu des années 1990. On a lancé maintenant le projet de reconstituer le comité, et je participerai à ce projet. Une meilleure connaissance de l'histoire en tous ses aspects et la compréhension des motivations de l'autre peuvent donner une contribution aux bonnes relations politiques et diplomatiques. Si les politiciens sont prêts à écouter les leçons de Clio, qui ne sont pas certainement univoques, mais toutefois s'élèvent au-dessus de la médiocrité quotidienne. Merci beaucoup pour votre attention.